Jessica Vial.
Au moins 22 personnes ont été tuées et plus de 120 autres blessées dans des tirs israéliens ce dimanche dans le sud de la bande de Gaza. Un nouveau bilan de la défense civile de l'enclave palestinienne l'indique. Ces tirs visaient des personnes se dirigeant vers un centre américain de distribution d'aide alimentaire. Le Hamas a annoncé hier avoir remis au médiateur sa réponse à la proposition américaine de trêve dans la bande de Gaza. Mais cette réponse a été jugée inacceptable par les États-Unis. Washington avait indiqué plus tôt dans la semaine avoir reçu l'assentiment d'Israël à cette proposition. Deux ponts se sont effondrés cette nuit dans le sud-ouest de la Russie, près de la frontière ukrainienne. Ils ont provoqué des déraillements de trains dont l'un a fait au moins 7 morts et plusieurs dizaines de blessés, selon les autorités. La compagnie ferroviaire a évoqué une interférence illégale. Les autorités russes, elles, n'ont à ce stade fait aucun lien avec la guerre en Ukraine. Kiev, de son côté, n'a pas fait de commentaires. Les bureaux de vote ont ouvert en Pologne pour le second tour de l'élection présidentielle. Rafał Trzaskowski, maire pro-européen de Varsovie et allié du gouvernement centriste, affronte l'historien nationaliste Karol Nawrocki, soutenu par le parti conservateur Droit et Justice. Les sondages d'opinion prédisent un scrutin extrêmement serré qui aura des implications majeures pour le rôle du pays en Europe, pour le droit à l'avortement ou ceux des personnes LGBTQIA+. La situation est dans l'ensemble maîtrisée dans la vallée du Lötschental. Au niveau du lac qui s'est créé à Blatten après l'effondrement du glacier du Birch et autour du barrage de Verden en aval, il est toutefois encore trop tôt pour lever l'alerte, avertit la commune valaisanne, car la montagne reste en mouvement. Les éboulements au petit Nesthorn se poursuivent, selon Mathias Ebner, chef de l'information de l'état-major régional de conduite. Un nid de martinet sur trois est contaminé par des déchets plastiques et pourtant ces oiseaux ne touchent presque jamais le sol. C'est le constat de la première étude ayant examiné une interaction directe entre le plastique en suspension dans l'air et une espèce animale. Elle a été menée par des scientifiques espagnols et publiée dans la revue Science of the Total Environment. La Coupe de Suisse vivra la finale la plus déséquilibrée de son histoire cet après-midi au Wankdorf de Berne. Le FC Bâle, champion en titre, affronte le FC Bienne, la première équipe de 3e division à se hisser à ce stade de la compétition. Le club zélandais espère toutefois créer la surprise. Une rencontre à suivre sur RTS2 dès 13h45. Et puis une autre finale de football, celle de la Ligue des Champions, hier soir à Munich. C'est le Paris Saint-Germain qui l'a remporté 5-0 face à l'Inter de Milan. Du soleil au programme dans le ciel de ce dimanche, malgré des voiles de nuages élevés. Le ciel se fera plus chargé en seconde partie de journée et des averses ou orages sont possibles. Température en pleine, 28 degrés au maximum. Temps plus nuageux demain lundi avec un risque d'orage ou d'averses présent en matinée déjà et 22 degrés au maximum.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
La météo avec VZ, le conseiller financier pour votre retraite et vos placements, vzch.com.
Du 12 au 22 juin, Lausanne accueille le plus grand événement sportif de Suisse, la 77e fête fédérale de gymnastique.
Lausanne, 35,000 athletes from all over Switzerland meet for their gymnastics festival.
Un moment historique et festif où 65 000 gymnastes feront briller l'âme du sport. Spectateurs ou volontaires, rejoignez le mouvement, vivez l'émotion et découvrez la capitale olympique autrement. Plus d'informations sur lausanne2025.ch. La fête fédérale de gymnastique, c'est en direct sur RTS2 et sur l'application PlayRTS.
Travelling, Catherine Fatbert.
Mr. Beckett, come in.
It's good to see you again, Counselor. Judge Tate, Kendall Construction.
Innocuous.
Yeah.
How are you? What happened to your face?
I have AIDS.
Oh. Oh, I'm sorry.
Can I sit down?
Yeah.
Thank you.
What can I do for you?
I've been fired by Wyatt Wheeler. plan on bringing a wrongful termination suit against Charles Wheeler and his partners.
You want to sue Wyant, Wheeler, Hellerman, Tetlow, and Brown?
Correct. I'm seeking representation.
Continue.
Aujourd'hui dans Travelling Philadelphia de Jonathan Demme, ou Demme si vous préférez, sorti en 1993. C'est un film important, car il traite de problématiques tragiques, le sida, l'homophobie et l'exclusion. On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais dans les années 80-90, la communauté homosexuelle masculine, principalement, est atteinte d'un mal mortifère qui emporte dans la tombe des centaines de jeunes gens. Mais l'épidémie de sida va s'étendre et toucher d'autres populations par le biais de transfusions sanguines et de relations sexuelles. Il n'en faut pas plus pour que la panique gagne tout le monde et que le virus progresse rapidement. Ce mal, on en parle tous les jours à la radio, à la télévision, dans les journaux. Il faut du temps pour que l'on comprenne comment le virus du sida fonctionne et qu'on mette en place des campagnes d'information, de prévention, tandis que la science progresse et propose des thérapies. Et c'est dans ce climat délétère de peur que Jonathan Demme, le réalisateur multi-oscarisé pour Le silence des agneaux, tourne un film de procès qui traite, en sous-main, du sida, mais plus frontalement, d'exclusion. Philadelphia, c'est le premier film grand public qui traite de cette question, et il va faire date. Certainement grâce aux performances de ses acteurs principaux, Tom Hanks et Denzel Washington, mais principalement grâce à un scénario inspiré de quelques histoires vraies, un scénario bien ficelé, signé Ron Nicewarner. Le film est bien accueilli par le public et la critique. Tom Hanks remporte son premier Oscar du meilleur acteur pour son rôle d'Andrew Beckett. Aujourd'hui, dans Travelling, c'est Philadelphia que nous regardons ensemble. Nous avons beaucoup d'archives, des extraits, des anecdotes, la musique du film qui, elle aussi, a été oscarisée. Ne tardons pas trop, car le personnage joué par Tom Hanks se lance dans un contre-la-montre, contre l'injustice dont il est victime. Il en sort vainqueur avant d'être emporté par la maladie.
Bon, expliquez-moi ça comme si j'avais 2 ans, parce qu'il y a un détail dans votre histoire que j'arrive pas à faire entrer dans ma cervelle. N'étiez-vous pas tenu de dire à votre employeur que vous aviez cette terrible et mortelle maladie infectieuse ?
La question n'est pas là. À partir du jour où ils m'ont engagé, jusqu'à mon renvoi, j'ai fourni à mes clients un travail rigoureux, efficace et dont ils me félicitaient. Si on ne m'avait pas renvoyé, c'est ce que je ferais encore aujourd'hui.
Et ils ne veulent pas vous virer parce que vous avez le sida. Alors, malgré toutes vos qualités, ils vous font passer pour un incompétent, d'où le mystère du dossier perdu. C'est ça votre version ?
Oui, on m'a tendu un piège.
La bande originale de Philadelphia est écrite par un cador, Howard Shore. Oui, ça rime. Mais si le compositeur américain fait le lien entre toutes les parties du film, il laisse néanmoins la place à une programmation éclectique et très années 90 avec du Peter Gabriel, du Sade, du Spin Doctors, du Neil Young. Mais une chanson est emblématique de Philadelphia, c'est celle de Bruce Springsteen, composée spécialement pour le film. Pour Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen reçoit l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1994 ainsi que des Emmy Awards, des récompenses qui soulignent un travail continu de plus de 20 ans. Bruce Springsteen explique ce que ses fans lui disent.
It was usually very brief, you know, like they had a friend or a partner or a lover who had AIDS and the song was, you know, it was some comfort, it had some meaning for them, just kind of a thanks, you know.
Habituellement, dit-il, les gens me parlent très brièvement, ils ont eu un ami ou un partenaire ou un amoureux qui a le sida, et la chanson leur apporte une sorte de réconfort, ça a du sens pour eux. Ce sont surtout des remerciements que je reçois, précise encore l'artiste sur CBS. Un artiste que nous écoutons droit direct tout de suite sur la première.
I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt, I was unrecognizable to myself. Reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins.
black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Le cinéma, c'est travelling.
Scénario, Ron Nicewarner. Musique, Howard Shore. Direction artistique, Tim Galvin. Photographie, Tak Fujimoto. Réalisation, Jonathan Demme ou Damey. Budget, 26 millions de dollars. En un mot, Philadelphia. Un drame juridique traitant d'intolérance, d'exclusion, d'homophobie et de sida. Sorti aux États-Unis le 23 décembre 1993 et en Europe dès janvier 1994. Retour au film.
Allô?
Bonjour, maman.
Oh, c'est toi, chérie. Ça, c'est une bonne surprise. Comment ça va?
Bien.
Oh, mais que dit le docteur Gilman?
Le docteur Gilman dit que je vais bien. Mes analyses de sang sont excellentes. Elle dit que mes T4 sont stables.
Et est-ce qu'elle t'a parlé de ta numération de plaquettes, chérie?
Oui, mes plaquettes aussi, tout va bien.
Bravo.
Le sida, c'est quoi? C'est un des thèmes du film du jour, mais c'est surtout une maladie provoquée par un virus. Explication du site Un jour, une actu.
Le sida est connu depuis 1981. Il touche 37 millions de gens dans le monde, dont 26 millions en Afrique, soit un Africain sur 200. Mais comment le sida attaque-t-il ? Une personne passe le virus du sida à une autre, soit par des relations sexuelles, soit en lui donnant son sang. Une maman peut aussi le transmettre à son bébé. Sida signifie syndrome d'immunodéficience acquise. Le virus qui la porte est appelé VIH ou HIV en anglais. Ton corps est composé de minuscules cellules. Si elles sont attaquées par un virus, elles fabriquent des armes pour le détruire. Mais le virus du sida, lui, s'accroche aux cellules et les empêche de fabriquer ses armes. Puis il multiplie les cellules malades. Pendant des années, le malade résiste au sida. On dit qu'il est séropositif. Puis les cellules malades deviennent plus fortes que les cellules en bonne santé. Le malade ne peut plus résister. Il attrape d'autres maladies et en meurt.
Travelling.
Aujourd'hui, on peut ralentir la multiplication du virus dans le corps. Mais tout le monde n'a pas accès à ces médicaments. C'était le cas au début de l'épidémie, où ces médicaments n'existaient même pas, entre les années 80 et 1995, avec l'arrivée des trithérapies. Le sida est un virus qui progresse rapidement. Toxicomane, hémophiles, transfusés, prostituées, hommes et femmes, homosexuels sont touchés. Les banques de sang sont contaminées, l'épidémie galope, chacun, chacune peut être atteint, même des acteurs aussi célèbres que Rock Hudson. Et tout cela effraie les pouvoirs publics, les collectivités, les policiers, les soignants, les pompiers. Aux États-Unis, des maisons funéraires refusent de toucher au corps des morts de la maladie. On parle de fléaux, de malédictions divines qui frapperaient les homosexuels. On a peur que les sidéens touchent à la nourriture. Les autorités interdisent aux malades du sida de débarquer sur le territoire américain. Un vent de panique souffle sur certains États, à tel point qu'on lève le secret médical. Nous sommes Le 2 juillet 1983, Edward Lorre est correspondant à Washington pour Antenne 2.
Les autorités municipales ont donné l'ordre à tous les médecins de communiquer à l'Institut National de la Santé les noms de leurs patients atteints de cette maladie, sous peine de se voir infliger une amende de $300 et 90 jours de prison. 644 morts en 2 ans sur les 1641 cas officiellement enregistrés. Mais le problème est que chaque mois, je dis bien chaque mois, on en compte 165 de plus, dont 70% chez les homosexuels, et que les médias ne font rien pour calmer la panique. Par exemple, cette émission de télévision à Dallas, au Texas, où un prêtre, dans sa chronique journalière, a publiquement mis en garde toute la population. Et de cette façon.
C'est un fléau, une maladie qui affecte la communauté homosexuelle et elle contamine maintenant la communauté hétérosexuelle, les enfants et les bébés. Autre exemple, ce commentaire d'un autre pasteur au cours d'une émission de radio très populaire est toujours sur le même sujet. Beaucoup d'homosexuels sont dans la restauration. Qu'est-ce qui nous prouve qu'en touchant la nourriture, ils ne transmettent pas la maladie à leurs clients? Ou encore ce commentaire d'un médecin. Si on est contre les porteurs d'une maladie, il faut les isoler, que ce soit des vaches, des singes ou des homosexuels.
Eh oui, on a oublié, mais ça a existé. Et ça existe encore. La maladie de la honte, le sida. Car le VIH touche à deux tabous, la mort et la sexualité. On meurt d'avoir trop aimé. Pour pallier la défaillance des pouvoirs publics, des voix s'élèvent partout dans le monde. Des personnalités comme Liz Taylor et tant d'autres, des associations secrètes, enfin. Et c'est dans ce contexte que naît Philadelphia.
Si c'est mes d'amour, c'est mourir d'aimer, sans mourir d'amour, sida, sida née. Elle est année d'amour, à vouloir s'aimer, ils sont morts d'amour, sida, assassiné.
Depuis que l'on a commencé à parler du sida dans les années 80, explique le réalisateur, cette terrible maladie n'a été le sujet que de quelques films à budget limité produits par des studios indépendants. Ces films ont reçu un bon accueil de la part de la critique, mais ont touché un public assez restreint. Les majors n'avaient jusqu'à présent pas traité le sujet. Alors que les stars et les dirigeants se mobilisent à titre personnel pour recueillir des fonds et éveiller la conscience du public, aucun studio n'avait montré sa réelle volonté de s'attaquer à un sujet aussi délicat. Philadelphia est d'une certaine manière le premier film à gros budget regroupant des acteurs de renom qui traitent du sida et de l'homophobie. Mais pourquoi donc Jonathan Demme se lance-t-il dans ce combat juste après Le silence des agneaux ? Jonathan Demme.
Well, with Philadelphia,
à Philadelphia, l'épidémie de sida a vraiment explosé dans l'Amérique de Ronald Reagan. Il était le président de ce pays, il était complètement homophobe et ne faisait aucun effort pour combattre l'épidémie. Et j'avais des amis, des gens que j'aimais, qui étaient positifs au virus HIV ou qui avaient le sida. Et donc, en tant qu'Américain qui fait des films, je me suis retrouvé dans la situation où j'avais envie que mon travail, à quelque part, parle de cette situation, et donc j'ai rassemblé quelques personnes que ça pouvait intéresser, comme Ron Nicewarner, qui est un excellent scénariste, qui lui aussi voulait faire un film avec le sida comme sujet, et on a découvert assez rapidement, quand on essayait d'aboutir à la bonne histoire pour le film, que ce que nous devions concrètement faire, c'était un film qui traitait d'homophobie parce que l'homophobie était la cause principale de la discrimination du sida. Et cela devait être dit avant même qu'on puisse arriver à la discrimination due au virus du sida et à la maladie. Et oui, c'était un désir très, très personnel de contribuer au dialogue autour du sida.
Le réalisateur, plein de bonnes intentions, sait aussi frapper aux bonnes portes. Il analyse les choses ainsi. Je crois que la frilosité des studios n'est pas le premier problème. Dans mes démarches pour présenter mon projet, j'ai pu me rendre compte d'une chose. 90% des bonnes intentions se heurtent à la fameuse question « Comment va-t-on s'y prendre pour pouvoir faire passer ça ? À mon avis, le véritable problème est qu'il n'y avait pas, jusqu'ici, de script assez bon. Et sans scénario suffisamment solide, les studios n'allaient pas se mouiller sur un sujet aussi difficile. Vous n'allez pas vous investir complètement dans un projet si vous savez, au fond de vous-même, qu'il ne touchera qu'un public restreint. Philadelphia tapera donc fort. Et pour cela, quoi de mieux qu'une histoire vraie, une histoire de procès où la justice triomphe ? On vous parle du scénario dans le prochain chapitre.
Tu as un problème avec les homosexuels ?
Non, pas spécialement.
Aussi. Combien tu en connais ?
Et toi ?
Des tas.
Par exemple ?
Karen Berman, ma tante Teresa, mon cousin Tommy qui habite à Rochester, Eddie Meyers avec qui je bosse, Stanley, le gars qui nous a posé les placards de la cuisine.
Ta tante Teresa ? Cette magnifique créature voluptueuse et sensuelle et lesbienne ?
Tu débarques ?
Depuis quand ?
Probablement depuis qu'elle est née.
Oh, ma merde. Bon, d'accord, je veux bien l'admettre. J'ai des préjugés, j'aime pas les homosexuels. Ça te va comme ça ?
Il y a des films qu'on fait avec la tête et d'autres qu'on fait avec les tripes. Le Silence des agneaux était un film cérébral, confie le cinéaste. Philadelphia est un film du cœur. J'aimerais que le public sache que ce n'est pas seulement un film sur le sida. C'est d'abord l'histoire d'un destin, d'une prise de conscience. C'est un film sur tout ce qui fait la vie, sur la peur de la différence, sur la compassion et sur le courage. Et la compassion, une fois la consternation passée, a permis à travers des associations de mener des actions contre le sida en réunissant des artistes et des anonymes. En France, Jean-Louis Aubert, en 2004, chantait « Sidaventure pour Sidaction ».
Je peux tout te pardonner. Tu m'as tant donné, mon amour. S'il faut nous en retourner, je referai le même parcours, mon amour. Comme un enfant sauvage, tu traverses tous les âges. Et s'il te faut choisir une cage, avec toi je la partage. Si d'aventure tu nous quittais, si d'aventure tu partais, si d'aventure tu nous laissais cette blessure, jamais mon amour. Tu m'as toujours pardonné. Tu m'as tout donné, mon amour. S'il faut nous en retourner, je partage le compte à rebours, mon amour. Comme un enfant sauvage, j'ai traversé tous les âges. Et s'il me faut choisir une cage, avec toi, je la partage. Si d'aventure je vous quittais, si d'aventure je partais, si d'aventure je vous laissais cette blessure. Mes amours, mes amours, mes amours.
Travelling, voyage en cinéma.
Après avoir été vivement attaqué par le lobby gay américain pour avoir dépeint un homosexuel trans qui revêt des peaux de femme, un psychopathe tueur en série dans Le Silence des agneaux, Jonathan Demme s'amuse à briser un tabou hollywoodien en produisant une fiction sur le sida et la discrimination. Il fallait le faire, il l'a fait. Voyons ce que le film raconte.
Eh bien, apparemment, les gars de chez Highline partagent votre point de vue. Et c'est pour cette raison qu'à partir de 9h03 ce soir, juste après le dessert, les intérêts de Highline seront représentés par Wyant, Wheeler, Ellerman, Tetlow et Brown.
Sensationnel.
Et plus particulièrement par notre brillant collaborateur, Andrew Beckett.
Andrew Beckett est un jeune et brillant avocat, aucune affaire, aucun adversaire ne lui résiste. Et lorsque Charles Wheeler, le respecté fondateur du plus prestigieux cabinet de la ville de Philadelphie, lui propose de devenir son associé, ce n'est pas une promotion, c'est une consécration. La carrière de ce jeune juriste est exemplaire. Rien ne peut ralentir son ascension.
Thank you. Yeah, thank you.
You've met Andy, congratulations.
Oh, thanks. I'm overwhelmed.
Qu'est-ce que vous avez sur le front, mon vieux?
Comment? Où ça?
Ce qu'il y a là, sur votre front.
Oh, j'ai reçu une balle en jouant au squash.
Oh, excusez-moi.
Pourtant, lorsque ses nouveaux associés apprennent qu'Andrew est atteint du sida, il n'hésite pas à arranger une faute professionnelle pour justifier son renvoi. Celui qui hier encore était montré en exemple est à présent devenu indésirable. Andrew décide de ne pas se laisser faire et attaque le cabinet pour licenciement abusif. Il se sait condamné par la maladie, mais il n'est plus question de vengeance ni d'argent, mais de dignité et de justice. Dans ce combat, un seul homme va accepter de défendre le cas d'Andrew, Joe Miller, un jeune avocat idéaliste qui n'a pourtant pas grand-chose en commun avec son client. Seulement, il ne peut pas supporter l'injustice. Surmontant ses préjugés, Joe va peu à peu découvrir que malgré des modes de vie différents, Andrew et lui ont finalement de nombreux points communs, et ce qui n'aurait pu être qu'une simple bataille juridique devient le procès de la crainte, de la peur d'une maladie, du rejet de la différence. Le cas Beckett devient le symbole d'une lutte contre le silence, contre la souffrance et pour la vie.
Mesdames et messieurs les jurés, oubliez tout ce que vous avez vu à la télévision ou dans les films. Il n'y aura pas de témoins surprises de dernière minute. Personne ne s'écroulera à la barre en faisant des aveux larmoyants. Nous allons simplement vous présenter des faits. Andrew Beckett a été licencié. Vous allez entendre deux explications de ce licenciement, la nôtre et la leur. C'est à vous qu'il incombe de filtrer chaque parcelle, chaque fragment de vérité jusqu'à ce que vous puissiez déterminer laquelle des deux versions vous semble la plus vraie.
En mars 1992, après le triomphe du Silence des agneaux, tout le monde attend le prochain film du réalisateur. Mais Jonathan Demme, pour son 13e film, va aller là où on ne l'attend pas. Il définit lui-même ce film comme une histoire qui parle des hommes, des femmes, du sida, des avocats, de l'amitié, de la discrimination, d'avoir des bébés, de l'homosexualité, de son rejet, de l'hétérosexualité, du système juridique américain, des steaks au fromage, de tristesse, de rire, en d'autres termes de la vie d'aujourd'hui. À l'origine de ce scénario, une discussion. Un des amis de Jonathan Demme lui confie qu'il est atteint du sida. Il est atterré. Et avec sa femme, ils ne savent pas quoi répondre. Il s'entend dire « J'aimerais faire un film qui parle du sida parce que, même si nous savons qu'il sera forcément possible un jour de trouver un remède sur le plan médical, les malades souffriront toujours d'une sorte de mépris. Et cet aspect est à combattre avant tous les autres. Il faut que tout le monde se mobilise et qu'on soit tous solidaires. » Une grande tirade, mais qui ne demande qu'à devenir un projet. Et c'est ainsi que l'idée de faire ce film mûrit peu à peu. Rapidement, il contacte Ron Nicewarner, un scénariste qui a toute sa confiance. Les deux hommes discutent beaucoup. Il trouve des exemples dans la vie de tous les jours, parce qu'on parle beaucoup du sida à l'époque. Deux histoires les frappent, celle de Geoffrey Bowers, qui est un avocat licencié par son cabinet, décédé en 1987, et celle d'un autre avocat, Clarence Kane, séropositif, licencié abusivement. À partir de ces deux histoires vraies, Jonathan Demme et son scénariste vont tricoter quelque chose qui peut plaire au studio, avec un scénario très hollywoodien, implacable dans sa mécanique, mais qui parvient à passer du schématique à l'emblématique, puis à l'individuel. La forme d'un film de procès semble être la meilleure manière de parler de tout ça.
Our target audience for Philadelphia...
Notre audience cible pour ce film était... En fait, nous n'étions pas intéressés de le faire pour des gens qui avaient le sida, pour la communauté homosexuelle ou pour des gens déjà ralliés à la cause, c'est-à-dire sensibles à l'homophobie et au sida. Notre audience cible, c'était les gens qui étaient homophobes ou qui avaient mené des actions contre des gens qui avaient le sida. On voulait faire un film pour les obliger à arrêter ça et penser à leur attitude envers les homosexuels sidéens. Et donc, c'est pour ça que le film a été très précautionneusement fait, pour séduire un public homophobe, afin qu'il perçoive l'humain et le courage et même l'héroïsme des gens porteurs du sida et des homosexuels. Philadelphia est un film très réfléchi.
Pour le réalisateur, le soutien total de Tristar, les producteurs, le fait que Tom Hanks a accepté un rôle aussi inhabituel pour son public et que Denzel Washington a décidé d'incarner un homme truffé de préjugés n'ont été rendus possibles que grâce à une chose, la qualité du scénario. Dans les notes de production du film, Dem explique « C'est le script qui a tout déclenché. Notre scénariste Ron Nicewarner a fait un travail remarquable. Il a rassemblé une galerie de personnages tous plus riches, complexes, exaspérants et fascinants les uns que les autres. » Nous ne nous attendons pas à ce que les gens viennent pour voir un film sur le fléau planétaire, mais nous aimerions qu'ils viennent pour la densité des personnages, leurs sentiments, la richesse des relations humaines et pour le plaisir que tout cela procure. Son comédien principal, Tom Hanks, sensibilisé à la cause, est du même avis que lui.
C'est très facile de supposer, parce qu'ils sont différents en tout, que nous sommes les bons et qu'il serait impossible de les comprendre. C'est pas très profond ce que je vous dis là, mais le nouvel éclairage qui m'est apparu en faisant ce film, c'est un peu comme si j'avais découvert une nouvelle vérité, d'autres réponses, que j'ai envie de partager avec le monde des hétérosexuels. On ne peut que se sentir mieux en réalisant que l'on a beaucoup plus de choses en commun que de différences.
Une solidarité portée par le comédien Tom Hanks en 1994 au moment de la sortie du film en Suisse, c'est une archive RTS.
Do you think that homosexuals deserve special treatment?
Hell no.
We're standing here in Philadelphia, the city of brotherly love, the birthplace of freedom, where the founding fathers authored the Declaration of Independence. And I don't recall that glorious document saying anything about all straight men are created equal. I believe it says all men are created equal.
Plenty of goddamn breaks.
Someone being fired, law firm or business, if we found that their action was discriminatory, they could no longer do business with us.
Pourquoi Philadelphie ? Pourquoi cette ville ? Parce que Philadelphie est la ville de l'amour fraternel. C'est « The City of Brotherly Love » et c'est là qu'a été adoptée la Déclaration de l'Indépendance qui donne une nouvelle dimension à cette histoire qui parle de justice et de fraternité. Denzel Washington dit d'ailleurs dans le film que la Déclaration ne dit pas « tous les hétérosexuels naissent égaux ». À réfléchir. Et c'est pour cela, on vous laisse le temps d'écouter un extrait de la BO de Philadelphia avec Sade, Please Send Me Someone to Love.
Thank you.
Nye Spooner, le scénariste, Philadelphia est un film sur l'amour, sur tous les amours, et sur celui qu'Andrew éprouve pour la vie. C'est aussi un film sur les sentiments que beaucoup de gens éprouvent sans jamais parvenir réellement à les exprimer. Allez, on y retourne.
Okay, everybody, this is the house that I grew up in.
Bonito, palacito.
Right here, the hometown of Lower Marion, Pennsylvania.
Very good.
Wait, here. Here's proof. It's... there, my handprints from when I was a cute little boy. Today is the 40th wedding anniversary of my mom and dad, the Becketts.
Isn't that something?
Pretty tough life around this poverty so many years, huh?
Well, now, those can be some pretty mean streets. Don't let appearances fool you. Here's the front door. Now, I once slammed this finger in the front door, and I broke it.
Where's my brother?
Hey! Hey! There's my sister Jill, everybody!
Bonjour, Alexia.
Ma maman est encore enceinte.
Quoi? C'est vrai, ça? Ça va, Mégane?
C'est à toi, Andy.
Il est où, papa?
Il est en bas. Il essaie de réparer le souffle-neige.
Il neige tous les 7 ans. Papa achète un nouveau souffle-neige.
Mon grand, comment tu vas?
Ah, maman, aujourd'hui, tout va bien.
Bravo.
Continue comme ça, Mégane. Tu tiens le bon bout. Il faut que je dise bonjour aux sœurs Bronte. Bonjour, Caroline. Bonjour, tante Pesse. Tu rajeunis de jour en jour. La forme. Oh, et voilà la plus belle. Et Sandra.
Bonjour, Andy.
Ça va,
bonjour,
vous deux?
Bonjour, Andy.
Ce film, Philadelphia, est un coup de poing. Faut le monter. Faut le monter. Bon. Les banquiers hollywoodiens, qui sont pas pires que les autres, disent, mais écoutez... qui ça va intéresser? On en entend parler sans arrêt du sida, les médias en parlent, vos journaux y consacrent des colonnes, on va pas encore saturer les écrans, etc. Non, c'est très difficile. Seulement voilà. Seulement voilà. Dans le cinéma, et pas que chez Walt Disney, il y a toujours une bonne fée qui traîne par-ci, par-là. Il y a un cinéaste qui s'appelle Jonathan Demme. Vous savez qui c'est, Jonathan Demme? Ben c'est celui qui a fait une moisson d'Oscars avec un film magnifique que vous adorez tous, Le silence des agneaux, Anthony Hopkins et l'inoubliable Jodie Foster. Donc, monsieur Jonathan Demme, c'est quand même plus n'importe qui sur la place d'Hollywood. Hein. Il a une crédibilité, on sait qu'il sait faire, lui, derrière la caméra. Qu'il est efficace, qu'il a traité quand même un sujet très très délicat, le silence des agneaux, c'était quand même pas Blanche-Neige et les sept nains. Qu'il a réussi, que c'était un grand succès public. On peut pas lui dire non. Si on lui dit non maintenant, bon, qui sait. Et on lui accorde les crédits, et il décide de tourner. Et comme c'est quelqu'un de très 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 intelligent, il ne va surtout pas se tromper dans son casting.
Ce film est un coup de poing selon Christian Defaye dans cette archive RTS. Et pour ne pas rater son casting, Demme engage Tom Hanks. Il n'était pas le premier pressenti. Aussitôt le projet du film accepté par TriStar, le scénario est envoyé aux agents des plus grandes stars hollywoodiennes. Daniel Day-Lewis, Michael Keaton, William Baldwin, Keanu Reeves, Robin Williams, Bill Murray et Andy Garcia sont ainsi contactés. Tom Hanks est toutefois assez vite pressenti. Beaucoup de gens bien intentionnés lui disent qu'il ne peut pas jouer ce personnage, un homosexuel qui a le sida, qu'il va couler sa carrière. Mais il n'écoute pas. À l'époque, Tom Hanks n'est pas encore le héros de l'Amérique, il n'est pas l'homme d'Apollo 13, il n'est pas celui de Forrest Gump, il n'est que le gars de Big. Et il fait un choix courageux.
The bigger stretch there was for the studio itself, to say we are going to put
La vraie prise de risque a été faite par les studios. Ce sont eux qui ont dit « on va mettre 30 millions de dollars, c'est un gros budget », et ils ont suivi Jonathan Demme, qui a fait, comme vous le savez, Le silence des agneaux, et qui était un provocateur fabuleux, quand il choisissait les sujets de ses films et portait les projets jusqu'au bout. Ce sont eux qui prenaient le risque, parce qu'on allait faire un film qui allait entrer en compétition sur le marché avec tous les autres. Les films d'action, d'aventure, d'amour, les comédies romantiques. Et donc présenter un film qui allait entrer en compétition avec ceux-là, c'était quelque chose qui ne se ferait plus aujourd'hui. Ça aurait pu être un documentaire pour la peine. D'autant que le sida, on en parlait dans les journaux, à la télé, tous les jours. Et je pense que c'est là que se tenait l'enjeu. Et j'ai rencontré Ron Nicewarner et Ed Saxon. Ron était le scénariste et Ed était le producteur et Jonathan le réalisateur.
You know, I had done League of Their Own. You know, I was a guy that was in movies, but I kind of said, well.
Et à l'époque, vous savez, j'étais le gars qui avait fait la série télé League of Their Own. J'étais le gars qui avait fait quelques films. Et je crois que j'ai dit, oh. Bien, je vois. Oh oui, ok, je vois. Je crois comprendre pourquoi vous voulez que je joue dans le film. C'est parce que je crois que personne n'a peur de moi. Je ne suis pas, vous savez. Ok, je comprends. Et j'ai pensé que même comme ça, c'était un choix courageux. Mais même comme ça, quand le film est sorti, il y a eu une grande partie de la communauté gay qui a dit « ça ne nous représente pas du tout ». Et ils avaient raison, mais ça représentait aussi une tonne de personnes qui sont gays et qui ne sont pas sorties du placard ou qui n'ont pas encore réussi à se faire accepter. Et c'était donc 50-50. Et donc c'était suffisamment authentique, réel, pour toucher le public.
Tom Hanks en 2023. Face à lui, Denzel Washington. Christian Defay souligne l'intelligence du casting en 1994 à la télévision suisse romande.
L'intelligence du casting, que va-t-il faire? Il va choisir un homme de couleur, Denzel Washington. Bon, c'est vrai que c'est une grande star. Mais il ne le choisit pas uniquement pour ça. Il le choisit comme avocat. Justement, de celui qui est spolié parce qu'on lui fait le procès d'intention d'être séropositif, donc de l'éliminer. Il choisit cet homme de couleur, Denzel Washington, qui alors n'est ni de près ni de loin sympathisant avec le milieu gay, qui déteste les homos par-dessus tout, qui est pas du tout en connivence intellectuelle ou affective avec cet univers-là. Quand même un côté un petit peu macho. Ça, c'est ça l'intelligence d'un metteur en scène, de renforcer pour donner de la crédibilité et que le spectateur n'ait pas l'air de dire oh, « bah, c'est une petite réunion de famille, ils sont entre eux, ils sont très contents, ils parlent de choses et d'autres ». Non, 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 non. Le Denzel Washington, vous allez voir le boulot qu'il fait dans le film et il n'est pas pour peu dans ce qui va se dérouler. Vous savez que Jonathan Demme a tenu beaucoup à ce film et il tient beaucoup. Et je ne vous citerai qu'une seule phrase de lui. Si ce film peut engendrer un débat de prise de conscience concernant l'exclusion, je serai un homme heureux. Je crois qu'il peut l'être.
Entre octobre et février 1993, dans la continuité du scénario, ce qui permet à Tom Hanks de perdre 15 kilos. Le comédien doit aboutir à une véritable transformation de son aspect pour traduire les ravages de la maladie. De leur côté, les responsables du maquillage entreprennent des recherches physiques du sida dans les librairies médicales, dans les cliniques, dans les hôpitaux. Tom Hanks, lui, lit beaucoup. Il rencontre des malades, il leur pose des questions existentielles. Une seule scène est tournée en studio. Toutes les autres sont en décor réel. Dans la salle 243 de la mairie de Philadelphie, qui sera choisie pour accueillir le procès, à la bibliothèque de l'Université de Pennsylvanie, au Mont Sinaï Hospital, dans un loft d'architecte. Les scènes les plus émouvantes à tourner pour l'équipe sont celles qui se déroulent à l'hôpital. Une clinique locale, Action AIDS, sert de décor. Une vingtaine de malades participent au tournage, la plupart souffrant des maladies physiques relatives au VIH. La plupart mourront quelques années après le film.
Hello, hello. Oh. That's all right.
Okay. I'm getting out of here, right?
Okay.
Okay.
Thanks for coming in.
Oh, one more.
Thank you for driving like a bat out of hell.
Take it easy, right?
Dr. Gilman is out of her office. I told her to take a day off, and she took a day off. Can you believe that?
So they took blood? A specimen or something?
Blood, yes. A specimen. I'm empty. Did you find somebody to take your blood?
Don't worry about it. Let me see. Oh. You got a fever, baby.
Nurse?
Oh, this is my guy. Excuse me. Doctor. Hello. Hi.
Just one second.
Yes, right.
I came that close to not making it into the bathroom, Miguel. I almost lost in front of everybody.
So what? It's nothing to be ashamed of.
Ashamed. It's just. What about my blood work?
We're waiting. Meanwhile, I want to prep you for a colonoscopy. We want to take a look inside.
Ça a l'air divin.
Et attendez. Vous êtes obligé de les faire.
Qui êtes-vous?
Et vous êtes qui, docteur?
C'est mon ami.
Ah oui.
Il prend note de toutes mes visites à l'hôpital, il n'a rien contre vous.
Ah, je suis le docteur Kleinstein. Vous avez raison, une coloscopie, ça n'a rien d'une partie de plaisir. Si c'est le Kaposi qui est à l'origine de la diarrhée, il faut que nous le sachions tout de suite.
Oui, mais ça pourrait être un parasite, une infection, je ne sais pas.
Une réaction à l'AZT.
Ce sont des possibilités, mais il faut tout de même pratiquer
non,
cette
écoutez-moi,
coloscopie.
Pas question de lui faire subir un examen douloureux tant qu'on n'a pas éliminé tous les restes. Vous comprenez?
Écoutez, je fais ce que je peux pour aider votre ami.
Très bien.
Et vous n'êtes pas un proche parent.
Je ne suis pas proche.
Je pourrais vous faire virer des urgences.
Ah oui.
Écoutez, docteur, il est très nerveux et il s'excuse.
Ne fais pas d'excuses à ma place, s'il te plaît.
Ah, il ne vous fait pas d'excuses. Alors voilà ce qu'on va faire. Attendons de voir ce que la prise de sang va donner. Et j'essaierai de vous fournir un échantillon de sel. Avec ce qu'on mange ici, ce sera plus facile. On aura peut-être des nouvelles du docteur Gilman. Et à ce moment-là, on verra ce qu'on fait. C'est bon pour tout le monde? Ça va?
Ouais, ça va.
On est d'accord? Je vais au labo voir pour la prise de sang. Merci, docteur.
Sometimes I think that I know what love's all about. And when I see in the world, I had my friends when we were boys and girls, and the secrets came
La bio de Philadelphia, c'est 14 titres, sans oublier les compositions de Ward Shore. Jonathan Demme est passionné de musique et pour son film, il commande deux chansons originales. L'une à Bruce Springsteen, qui remportera un Oscar, et une autre à Neil Young, figure emblématique du country rock. Contacté en premier, Neil Young compose rapidement Philadelphia, une balade au piano qui contribue à l'émotion du film. C'est d'ailleurs cette chanson qui accompagne l'apéro qui suit la mort d'Andrew.
City of brotherly love, place I call home. Don't turn your back on me, I don't wanna be. Someone is talking to me, calling my name.
1993, au moment où le film est tourné, on dénombre au niveau mondial plus de 64 000 cas de sida chez l'adulte et chez l'enfant. Depuis la découverte du virus en 1981, on estime à 85,6 millions de personnes qui ont été infectées. Selon les chiffres ONU-SIDA, les statistiques mondiales du VIH font état en 2022 de 39 millions de personnes vivant encore avec le virus. 1,3 million de personnes ont été infectées au VIH en 2022. 630 000 personnes sont mortes de maladies liées au SIDA en 2022. Les populations les plus touchées par le virus sont les femmes et les jeunes filles. L'Afrique est le continent le plus atteint. Sur les populations atteintes, 9,2 millions de personnes vivant avec le VIH n'ont pas accès à un traitement antirétroviral en 2022. Et que racontent finalement ces énumérations de chiffres, me direz-vous? Tout simplement que le sida, ce n'est pas fini, et qu'un film comme celui que Jonathan Demme sortit en 1993 a encore complètement sa raison d'être aujourd'hui. Retour au film.
Objection. Your Honor, objection.
All right, Mr. Miller. That'll be sufficient.
Mr. Wheeler, you are magnificent. You are my hero. Andrew is right. You are the greatest. Are you gay?
Objection.
How dare you?
Witness will kindly answer.
No, I am not a homosexual. Isn't it true that when you realized Andrew Beckett, your golden boy, your future senior partner, was gay and had AIDS,
ça a été un terrifiant coup de poignard qui a transpercé votre cœur d'hétéro? Vous vous souveniez des embrassades et des claques dans le dos de tous les moments d'intimité au sauna, des petites tapes sur les fesses qu'on échange entre hommes et que vous aviez échangé avec Andy? Vous vous êtes dit, mais nom de Dieu! De quoi j'ai l'air, moi, maintenant?
Monsieur le Président, objection.
Le témoin est prié de répondre à la question.
Monsieur Miller, vous pouvez faire tous les effets de prétoire que vous voulez avec vos insinuations et vos fantasmes de vestiaire. La vérité n'en demeure pas moins. Que votre client travaillait quand il voulait bien travailler. Ne nous disait que ce qu'il voulait que nous sachions sur sa véritable personnalité. Andy se croyait autorisé à piétiner tous les principes. Et son travail a fini par subir les conséquences catastrophiques de cette façon de faire.
Voulez-vous m'expliquer ça comme si j'avais 6 ans? Parce qu'il y a un truc qui m'échappe. Ces principes que vous évoquez sont dictés par qui, hein? Vous?
Lisez la Bible, Monsieur Miller. L'Ancien et le Nouveau Testament. On y trouve d'assez bons principes.
Excusez-moi. Andrew.
Excusez-moi, je suis tout de suite.
Without question, it's time.
Ce film tombe bien. Ça a coûté très cher. Il y a de grandes affiches partout parce qu'on cherche à attirer le public. On cherche le succès. Mais le film est quand même reconnu comme le premier film à grand budget qui traite de l'homosexualité et du sida. C'est la première approche, la première tentative de traiter ce sujet qui concerne véritablement toutes les sociétés.
Oui, c'est populaire. Et larmoyant, c'est hollywoodien à souhait, mais ça vient à temps pour faire condamner nombre de préjugés et qu'il est bon de temps à autre que la morale l'emporte sur les moralistes.
Et voilà, c'est dit, la morale l'emporte. Il ne peut pas en être autrement, car Philadelphia est un film à message. En 1993, il sort au cinéma la veille de Noël aux États-Unis et en janvier en Europe. Peut-être est-ce parce que Denzel Washington et Tom Hanks en sont les têtes d'affiche que le public se presse en masse. Ou peut-être parce que c'est le réalisateur du Silence des agneaux et qu'on a envie de voir ce qu'il peut raconter. C'est un peu des deux, certainement. Avec, derrière, on n'oublie pas, la grosse machine hollywoodienne et sa promotion en béton. La critique en général apprécie plutôt le film. Rita Kempley du Washington Post écrit que c'est moins un film de Demme que le meilleur de Frank Capra. Ce n'est pas seulement téméraire, ringard et patriotique, mais compatissant, convaincant et émotionnellement dévastateur. Le film est également plébiscité par la profession. Aux Oscars de 1994, il reçoit celui du meilleur acteur pour Tom Hanks et de la meilleure chanson originale pour Bruce Springsteen. Un Grammy Award et des Emmy Awards aussi pour cet artiste.
Bruce Springsteen!
A big night for the Bars as Bruce Springsteen went 4 for 5. His moving ballad, Streets of Philadelphia, took top honors, including Song of the Year.
I'd like to thank all those disparaged and mysterious Grammy voters out there, wherever you are. My family, Patty, Ev, Jess, Sam, my mom who's here tonight, top of the world, Ma. My dad at home, love you, Dad. My fans, whose passion and support has given great meaning to the work I've done.
Bruce Springsteen qui remercie tout le monde, ses fans, sa mère, son père et toutes les personnes qui l'abordent dans les restaurants, dans la rue, ceux qui ont perdu un proche du sida et qui le remercient pour cette chanson qui a vraiment un sens. Le mot de la fin ? Nous allons le laisser au réalisateur, à qui d'autre ? En 2006, il parle de Philadelphia et de son accueil.
Nous sommes allés dans les rues de Philadelphie et nous avons fait notre film. Et encore une fois, nous n'avions aucun moyen d'anticiper quelle sorte de réponse nous allions obtenir. Je me souviens de la première, l'avant-première en fait. J'étais en Floride, à Miami, et avec mon producteur associé, Ed Saxon, nous sommes allés dans un cinéma où on passait le film et on a demandé au gérant de la salle combien de spectateurs il y avait. Il nous a dit « Oh, c'est plein !» Et nous, « Waouh, vraiment !» On a attendu dehors et quand les portes du cinéma se sont ouvertes, on a vu les gens qui partaient en pleurant ou presque abattus. Et c'était vraiment difficile de deviner s'ils avaient aimé le film ou pas. Plus tard, on a su que le public appréciait le film. À l'évidence, Tom Hanks nous a donné un coup de main gigantesque. Il nous a permis de toucher le public. Sa présence dans le film a envoyé un signal à beaucoup de gens et a aussi prouvé que tellement de vies avaient déjà été impactées par le sida. Il y avait des gens qui voulaient voir ce film parce qu'ils vivaient d'une manière ou d'une autre, soit avec un être aimé, soit avec un ami qui avait vécu une expérience similaire.
Andy, the way that you've handled this whole thing, you and Miguel with so much courage, I don't believe there's anything that anyone could say that would make us feel anything but incredibly proud of you.
Eh bien, je n'ai pas élevé mes enfants pour qu'ils soient des citoyens de seconde zone. Je veux que tu te battes pour défendre tes droits, d'accord?
C'est pas croyable ce que je vous aime.
On referme les portes de notre cinéma radiophonique et on en déroule le générique. Catherine Fadbert et Marie-Claude Cudry à la réalisation. Nous étions assistés de Jean-Baptiste Roumins, de Nicolas Favre, d'Alain Freudiger et de la Cinémathèque Suisse. Merci à nos collègues qui ont prêté leur voix pour les traductions. RTS.ch Travelling et RTS Play ou alors les plateformes de podcast parce que c'est là que vous pouvez nous streamer, nous télécharger, nous podcaster pour nous emporter avec vous et nous écouter à votre convenance. Notre application gratuite RTS Play regroupe l'entier de nos productions et c'est fort pratique. Sinon, une simple recherche dans un moteur du même nom, vous tapez Travelling RTS et le nom du film qui vous intéresse et nous voilà dans vos oreilles. Dimanche prochain, c'est un classique des classiques, un film qui a fait peur à des générations et des générations de nageuses et de nageurs. C'est un film qui a encore des conséquences sur les populations de requins aujourd'hui. Vous avez deviné bien sûr, Jaws, Mâchoire en anglais, Les dents de la mer en français, un film de Steven Spielberg sorti en 1975. Ça fait 50 ans, vous vous rendez compte? Et pour fêter cet anniversaire, la Cinémathèque Suisse vous projette ce film culte sur grand écran lors d'un vendredi de la peur. Ce sera le vendredi 13 juin, venez nombreux, venez nombreuses pour agiter les ailerons, pour crier de plaisir devant les mâchoires d'un requin géant et pour vibrer avec la musique de John Williams. Rendez-vous est pris. Dimanche prochain, 10h-11h sur RTS Première pour tout savoir sur le film. Et c'est aussi disponible en podcast ou en replay. Et direction le Cinoche le vendredi suivant pour le voir sur grand écran. Nous avons quelques invitations à vous offrir pour aller voir les films Travelling. Une seule adresse et un gentil message à travelling@rts.ch et nous promis, on fait au mieux. Pour la suite, ce sera Jonah Schneider et ses joyeuses Luronne et Luron, gays comme des pinsons, folles dingues comme des mésanges, qui vont vous cuicuiter l'actu du moment, mais pour l'heure aux côtés de Jonathan Dame, de Tom Hanks, de Denzel Washington, sur RTS Première, il est 11h.